Den sowjetischen Realisateur Sergei Eisenstein war zwischen den zwei Weltkriegen eh von den großen Pionieren von der Filmkunst. La Grève, La Cuirassée Potemkin, Oktober, Que Viva Mexico, das sind ein paar von den Meisterwerken, die den Eisenstein zwischen 1924 und 1946 gedreht hat. Am Centre Pompidou zu Metz ist nach während einem guten Monat eine Ausstellung zu sehen, die sich dann am großen Cineast und Filmtheoretiker auseinandersetzt. Sergei Eisenstein, Cineast à la Croisée des Arts. Denn Michel Deller schwört sich mit der Ada Ackermann, Co-Kuratorin von der Expo in der Halle.
Ada Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Ce qui m'intéresse en tout premier lieu, c'est le début de l'exposition où vous citez un extrait des mémoires d'Eisenstein et vous placez en fait l'exposition sous le signe de la violence.
Oui, en fait, Eisenstein est passionné par l'idée d'un art, d'une image qui affecte le spectateur. Effectivement, quand on cherche, si je puis dire, un fil rouge dans son œuvre, il y en a un qui s'impose assez facilement et Eisenstein lui-même le souligne, à savoir qu'il va mettre en place des représentations des images où on mutile des personnes, on les sacrifie. C'est évidemment un moyen très fort pour toucher viscéralement le spectateur et aussi pour concilier ce qu'Eisenstein assigne à son art, à savoir donc une émotion très forte, mais au service d'une idée. Et donc, quand on montre des innocents martyrisés, évidemment, c'est un moyen extrêmement puissant pour susciter l'indignation et favoriser la cohésion d'un groupe autour d'une cause donnée.
La cause en question, c'était évidemment le régime soviétique. Eisenstein était un propagandiste du régime stalinien. Évidemment, il était conscient de ça, mais est-ce que pour lui, c'était secondaire ? Est-ce que lui, il mettait plus en avant la possibilité de pouvoir exercer son art ?
Alors, en fait, Eisenstein, lorsqu'il embrasse la Révolution, les idéaux de la Révolution, il est extrêmement sincère. Il est convaincu de pouvoir mettre son art au service d'une cause juste qui permette l'édification d'une meilleure société. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'ensuite il va cautionner évidemment le régime dans son ensemble et notamment dans l'établissement de la dictature stalinienne dont il va lui-même souffrir au premier chef avec la censure, en voyant aussi nombre de ses collègues inquiétés, voire arrêtés et exécutés. En revanche, Eisenstein est vraiment convaincu qu'avec l'art et notamment le cinéma qu'il considère être l'art le plus abouti, le plus efficace, on peut transformer le spectateur intérieurement, l'amener à être un meilleur citoyen. Et c'est donc aussi cette force de cohésion qui l'intéresse au premier chef et cette force collective du cinéma qui permet à différents spectateurs de fusionner en une entité et d'avancer ensemble.
D'un point de vue de l'esthétique du cinéma, Eisenstein est évidemment un précurseur de différentes techniques. C'était un maître du montage, du cadrage. Est-ce que vous avez voulu, dans cette exposition, mettre en lumière un autre Eisenstein qui était un peu moins connu ?
Alors, pour aussi faire le lien avec votre question précédente, si d'une part Eisenstein est convaincu de la cause qu'il défend, il est tout autant convaincu de la nécessité et de la chance qu'il a de pouvoir faire une expérimentation, des expérimentations avec un nouveau médium qui est celui du cinéma. Et donc, il ne va jamais renoncer à l'expérimentation, au péril parfois de sa vie. On a voulu éclairer autrement cette grande figure du 7e art qu'est Eisenstein en montrant à quel point son imagerie si puissante, si géniale, est innervée par toute l'histoire de l'art, l'histoire des arts qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise et qu'il cite et qui inversement permet d'être revisité à la lumière de son travail. Mais pour autant, on ne peut pas faire ce constat et cette démonstration sans rappeler cette puissance initiale des images d'Eisenstein, d'où notre choix au tout début de l'exposition de l'ouvrir par un triptyque d'écran qui constitue une sorte de condensé de l'imagerie eisensteinienne à partir de plusieurs extraits de ces différents films qu'on a agencés selon des logiques de motifs qui rythment tout son cinéma et aussi de manière justement à rendre hommage à son montage. C'est-à-dire que c'est un grand montage sur trois écrans, mais comme chacune des boucles n'est pas synchronisée avec les autres, il se crée au-delà du montage inhérent à chaque boucle un montage entre les trois boucles qui fait ressurgir des nouvelles associations, des nouveaux liens lien entre les images et qui rend, il me semble, tout à fait justice à cette puissance du montage eisensteinien qu'il n'a cessé de défendre tout au long de sa vie.
Le contexte actuel, contexte politique en France, mais au-delà dans le monde, un contexte insurrectionnel, d'instabilité politique. Est-ce que vous étiez conscient de cela lorsque vous avez conçu cette exposition, qu'il y avait des résonances avec l'époque d'Eisenstein ?
Oui, même si, encore une fois, ce qu'on voulait faire avec cette exposition, c'était éclairer Eisenstein sous un jour moins connu. Et quand on pense à Eisenstein, on pense très facilement et évidemment à son rôle comme un artiste politique. Donc là, on s'écarte un peu de ce chemin, même si évidemment on ne peut jamais dissocier complètement l'esthétique du politique et inversement. Et donc bien sûr, dans ces images de soulèvement, notamment dans Octobre, qu'on restitue dans toute leur monumentalité avec cet espace gigantesque de la Grande Nef qui permet de monter jusqu'à 20 mètres sous plafond. Évidemment, on se doute que c'est des images qui, parce qu'elles n'ont rien perdu de leur force et de leur geste révolutionnaire, peuvent parler à des gens qui s'inscrivent dans des combats.
Eisenstein, évidemment, fait partie du patrimoine artistique mondial. Tous les cinéastes, qu'ils le veuillent ou non, se réfèrent à lui. Est-ce que vous avez repéré des cinéastes qui avaient une démarche semblable aujourd'hui, qui se référaient directement à son œuvre pour refléter des combats politiques d'aujourd'hui ?
Bon, je pense que quelqu'un, par exemple, comme Sergueï Loznitsa, se réfère explicitement à Eisenstein, ou quelqu'un comme Godard, qui le cite régulièrement. Encore dans le livre d'images, on avait des extraits des différents films d'Eisenstein. Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée pour l'exposition. Est-ce qu'il fallait aborder la postérité d'Eisenstein, puisque, comme vous l'avez rappelé, il fait partie du conscient et de l'inconscient de chaque cinéaste aujourd'hui. Et ça aurait sûrement donné lieu à une autre exposition. Donc finalement, on a préféré ne pas du tout aborder cette question-là. Mais je pense que justement, en montrant Eisenstein tout seul avec ses sources, on voit à quel point son imagerie reste moderne et parle aux spectateurs d'aujourd'hui. Et je pense que finalement, ça se passe de la démonstration de tout son héritage pour qu'on mesure à quel point il reste actuel.
Ade Ackermann, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Dada Ackermann um Mikro vom Michel Delage an der Ausstellung L'œil extatique Sergueï Eisenstein, Cinéast à la croisée des arts, als nach bis den 24. Februar am Centre Pompidou zu Metze gesehen.